Bonsoir à tous. On va faire l'appel. Alors, donc, une voix seule présente. Capo Bernard.
Présent.
Giorgetti Amélie.
Présente.
Jeanne Alain.
Présent.
Cabas Marie-Hélène.
Présent.
Chrétien Steve, il est en commission, donc s'il ne peut pas venir, j'ai un pouvoir. Rouquayrol Béatrice.
Oui.
Depont Jean-Pierre.
Présent.
Barascute Bruno.
Présent.
Baille Bruno.
Présenté.
Représenté par Barascute. Voyer Michel.
Présent.
Crespin Christian.
Présent.
Gombert Valérie.
Bonjour.
Représenté par Michel Boyer. Guédan Frédéric.
Présent.
Jeannin Véronique.
Présent.
La Griffole Eda. Comment ça se fait qu'Eda n'est pas là, Michel?
Non, je ne sais pas.
Effectivement, elle
devait venir.
Ah,
c'est
bien
tout à l'heure.
Ah, on peut lui passer un petit coup de fil.
C'est bien tout à l'heure.
Olivier Masson.
Présent.
Christian Raymond. Je suis sûre qu'il pense que c'est 19h, le conseil. Ah. Je suis sûre que c'est ça. Est-ce que quelqu'un peut envoyer un message à Christian Raymond? Rivane Sophie.
Oui, présent.
Marilyn Serre, représentée par Michel Thomas. Sabine Tourelier.
Présent.
Michel Bourrelli.
Présent.
Myriam Gelsomino.
Pareil, elle arrive là. Voilà. On attend.
Jean-Marie Prosperi.
Présent.
Jean-Paul Bord.
Présent.
Céline Gaulin.
Présent.
Bon, on attend 3 minutes là, Myriam.
On attend.
Myriam. Vous avez été.
Ça,
Christian Lamont,
ah,
c'est bon.
J'ai pas eu.
Eda,
je l'appelle. Oui, Eda, bonjour. T'as pas oublié pour le conseil municipal, si j'avais dit. Non, c'est à 18h30.
Ah non, faut pas changer, une équipe qui gagne.
Mais on va garder 18h30
pour le coup. Ben je sais pas, parce que ça a l'air de poser quelques problèmes quand même pour certains, donc je pense que, je sais pas, à voir si, pour ceux qui travaillent, c'est toujours pareil. Ceux qui
si je le sais, c'est pas le problème.
Pardon ?
Si je le sais, là, c'est bien.
Olivier, 18h30, ça te va ou c'est...
Non, je m'arrange, c'est mieux, comme ça je finis de travailler plus tôt.
D'accord. Frédéric, ça va aussi, 18h30?
Oui, c'est bon, mais ça va. Moi, ça a plus de temps pour
l'apéro. Céline, Gaulin, ça va, 18h30, un petit peu moyen. Myriam, elle travaille aussi, non?
Non, mais là, c'est plutôt qu'elle a des problèmes avec son gamin. On ne connaît pas si chez elle, elle a dit qu'elle arrivait, mais...
Ok, Véronique, ça va, 18h30?
18h30,
ça peut aller?
Oui, donc même si je finis à 10h, ça
va,
c'est pas
mal. Ok. Tac, Amélie, 18h30, ça
passe.
Oh,
bon.
En attendant, on va nommer la secrétaire de séance ce soir dans l'ordre, donc c'est Marie-Hélène Cabas. Qui est contre? Qui s'abstient? Je suppose que les Les absents voteront aussi pour la secrétaire de séance. Souriez avec les masques, ça va être compliqué. Ah, vous voulez prendre la secrétaire de séance? Oh là là! Oh là là! Aujourd'hui, c'est un grand jour.
Thank you.
Christian Raymond, il est là. Bon allez, on va commencer et puis voilà. Donc on a élu donc comme secrétaire de séance ce soir Madame Marie-Hélène Cabas. Nous allons approuver en deuxième point le compte rendu du conseil municipal de la dernière fois. Y a-t-il des questions particulières ou Monsieur Borg?
Mais ça a été modifié. On a modifié les fonctionnaires de catégorie A, les références au décret que vous aviez mentionné, qui était évidemment erroné. Donc voilà, on vous le renverra.
Est-ce que vous pouvez répéter, Madame Gaulin, excusez-moi, je n'ai pas entendu.
Sur le point 3,
oui.
Relatif au service de la phase découverte, M. Prosperi la phrase qui a été rédigée dans le compte-rendu, et M. Prosperi demande que soit explicitée la position, pour expliquer qu'on était laissé sur le principe et pas sur le voilà. Sur la contribution de la participation familiale.
Autre remarque, point 5. J'ai remarqué sur le compte rendu que la délibération et l'omission du vote n'est pas marqué. Le conseil municipal a fait avoir délibéré.
C'était quoi le point 5, monsieur Borg?
Le point 5, c'était l'achat de matériel cantine. C'est ça?
Oui. Non, mais en fait,
la convention d'indemnisation française.
Oui.
Le point 6,
oui.
c'était indiqué, etc. Monsieur Bordemain de son groupe, etc. Proposition de sa part, marqué un groupe de travail. J'aurais aimé ajouter, enfin, ce que j'ai dit, avec les personnes concernées, directrice de l'école, professeurs et parents d'élèves. Merci. Et point. Dernier point, dernière remarque sur les questions orales. Nous demandons que les questions orales soient retranscrites de manière identique à celles envoyées à Madame le maire. Madame Cabin, je vous ai fait parler.
Oui, parce que.
Je vous inquiétais pas.
Je lisais là, je peux vous
en donner. Oui, mais Madame le maire les reçoit. Voilà, c'est tout.
Ok. Donc, ce compte rendu, on va le mettre aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté à l'unanimité. Tout le monde a signé. Sauf Steve, si il vient. Okay. Alors, nous allons ensuite passer à l'ordre du jour du conseil municipal. Donc, aujourd'hui, essentiellement, un conseil financier. Donc ça va être assez long, parce qu'on va avoir pas mal de choses. Donc dans l'ordre du jour, le débat d'orientation budgétaire, le compte de gestion 2020, le compte administratif 2020, l'affectation du résultat, et un dernier point, un peu plus amusant, le label pour les villes économes en eau. Et ensuite, des questions diverses pour terminer. On va passer au voir qui est contre, qui s'abstient, l'ordre du jour est adopté à l'unanimité. Donc nous allons commencer par le premier point, donc le DEB. Je vais laisser la parole à M. Capot.
Merci. Bon, vous avez vu qu'on vous a fait passer la note de synthèse rectificative parce que j'ai reçu le compte de gestion. Je l'ai écrit ce matin. On a vu un compte de gestion préalable. Enfin, je l'ai repointé ce matin. Je me suis aperçu qu'on avait arrondi le déficit d'investissement de l'année précédente, donc ça faisait quelques centimes d'écart. Donc je préférais vous le redonner avec des chiffres corrigés. Et d'autre part, on a, dans la première proposition d'affectation du résultat, j'avais fait la même chose que l'année précédente, c'est-à-dire j'avais déduit les lacets réalisés, et comme ils sont couverts par l'excédent d'investissement, il n'y a pas lieu de le faire. Hein, voilà. Donc c'est les deux choses qui, c'est pour lesquelles on vous a redonné une note rectifiée. Alors, donc on va passer au débat d'orientation budgétaire. Donc, comme chaque année, il y en a qui commencent à connaître. Donc on va un petit peu parler des buts et objectifs du DOB, qui consiste à définir la politique d'investissement, la stratégie financière de gestion ainsi que la politique fiscale de la commune, de fixer les objectifs concernant l'évolution des dépenses réelles de fonctionnement et du besoin de financement annuel, de faire le bilan de l'année écoulée, de discuter des orientations budgétaires et des engagements en matière d'investissement et d'informer les élus sur la situation financière de la commune. Ensuite, on évoquera l'effet marquant de l'exercice 2020. On fera une analyse du compte administratif 2020 en fonctionnement investissement, de résultats et son affectation. On parlera de l'épargne brute et nette, l'évolution des impôts et dotations. Il y aura un volet sur les emprunts. Rapidement, parce qu'on n'a pas encore beaucoup travaillé sur le budget 2021 avec la Commission, on aura juste deux petits diapos sur la projection sur le BP de 2021, sur les projets d'investissement. On a en perspective pour le prochain conseil municipal qui va adopter le budget, de finir un plan pluriannuel sur lequel j'ai quand même pas mal travaillé, mais qu'il faut que je travaille en Commission. J'espère qu'on pourra vous le présenter au 15 avril pour pouvoir un petit peu expliquer comment faire une projection sur 6 ans des investissements et leur mode de financement. Puis il y aura certainement d'autres choses à voir à l'intérieur, mais en fait c'est surtout comment financer les investissements sur les 6 ans. Hein. Voilà. Alors, on va parler des faits marquants. Alors les faits marquants, je vous apprends bien, les finances de la commune ont été impactées par deux événements était assez exceptionnel. C'est d'abord le renouvellement du conseil municipal et la crise sanitaire. Donc le conseil municipal, il a été retardé donc, de mars à juin. Donc on est arrivé en juin, juillet, les vacances. Bon, ça veut dire que l'année 2020 a été très impactée. On n'a pas pu faire de grandes choses. Il y a eu les périodes de confinement. Bon, évidemment, ces périodes de confinement, ben, elles ont empêché les manifestations, il y a eu la fermeture des salles associatives et la minoration tend à dépenser la recette des activités de service, et ben, la cantine, la garderie, les sorties scolaires, les enfants jeunesse, c'est ce qu'on va voir dans les comptes. Et puis les investissements, ben, effectivement, comme c'était une année de transition, et ben, ça a été réduit au minimum. Il y a eu surtout, si vous voulez, les restes à réaliser de l'année précédente et quelques investissements qu'on verra totalement à la fin. Alors, j'ai fait une petite diapo sur le coût direct de la crise sanitaire. C'était peut-être intéressant quand même de voir un petit peu ce que ça avait coûté, en sachant quand même qu'encore en 2021, on achète des masques, du gel hydroalcoolique, etc. Donc, les achats de masques et de gel, on a dépensé 7000 euros. On a acheté des paravarius, vous savez, c'est ces écrans qu'on met devant les comptoirs, hein. Il y en a eu 480 euros. Il y a eu des achats de thermomètres, ça c'est pour les écoles, il y a eu 1194 euros. Et puis il y a eu des salaires et des charges sur salaire pour le personnel qui n'est pas payé, qui n'est pas mensualisé. Donc il y a eu 5498 et 2569 de charges. Bon, ça c'est Claudine hein, qui me les a sortis des rémunérations. Donc on a eu un total de charges de 17 276. Et pour cela, on a eu un remboursement pour la continuité scolaire, donc c'est pour les salaires et charges, de 3 960, c'était un forfait. Et sur les masques, on nous a remboursé 2 000 euros. Donc on a perçu 6 000 euros, donc en fait, en coût direct, c'est 11 000 euros. Hein? Voilà, c'est intéressant quand même de voir ce que ça a engendré. Alors, après, alors là, je vais vous proposer quelques chiffres clés, parce que par la perception et le gouvernement, on a quand même des informations qui permettent de mettre en face, si vous voulez, la ville de Montferrier avec des communes apparentées. Ça, c'est la perception qui nous donne ces chiffres. Hein. Donc, je vais vous les montrer. Alors, qu'est-ce qu'ils ont d'intéressant, ces chiffres? Ben, on voit que, par exemple, pour les produits de fonctionnement, on a la moyenne en euros par habitant de 894 euros contre 1000 euros pour des communes de 5. Donc on voit que les produits de fonctionnement sont plus faibles que dans les autres communes. Par contre, si vous regardez les impôts locaux, eh bien on voit que les impôts sont plus importants. Et on voit d'ailleurs, quand dans les camemberts, je vous montrerai, que les impôts, ça représente 90% des recettes de la commune. Donc ce qui explique que dans d'autres communes, ils ont des recettes diverses que nous n'avons pas. Après, vous avez la DGF. On voit que la DGF qui représente, qui baisse chaque année, on en parlera tout à l'heure, on voit que ça représente que 21 euros par habitant contre 147 pour la STRAC. Produits et services du domaine, c'est ce que je vous disais, 51 dans les autres communes, il y a 83. Donc, on a un total, par contre, des tarifs de charges de fonctionnement aussi sont bonnes, puisque ça représente 818 euros, alors que la STRAC, c'est 927 euros. Voilà. Et après, le résultat, etc., bon, je vous laisse le lire. La nuitée, si la nuitée d'emprunt, hein, on sait bon, que la commune est très peu endettée, ça représente très peu par rapport à la strate habituelle. La base de la taxe d'habitation, on voit par contre que les bases des taxes d'habitation sont beaucoup plus importantes que dans les autres communes. Donc on a des bases plus importantes, mais comme on a des taux qui sont plus faibles, on voit que bon, en fait, ça se rééquilibre. Hein. Alors évidemment, vous savez que la taxe d'habitation disparaît et qu'il va rester que foncier. Mais ça, on aura le temps de l'évoquer tout à l'heure. Alors, la synthèse du CA, du compte administratif en fonctionnement, cette année, on a eu 3 140 000 euros de dépenses pour des recettes de 4 826 000 et un résultat de fonctionnement de 11 685 869. Alors, je précise tout de suite que dans ce résultat, effectivement, il y a les reports en fonctionnement de l'année précédente. Hein. Donc, on va directement aller à l'épargne, hein, c'est ce qu'il explique. Donc, vous voyez qu'on retire le résultat de clôture 2020, le report de 2019 qui était de 1,392 million, qui nous permet de dégager une épargne brute de 292 000. Et si on enlève le capital des emprunts, on a l'épargne nette qui est à 262 800 000 euros. Ce n'est pas si mal que ça cette année, puisqu'on voit que pour les rappels sur les années extérieures antérieures, on est assez cohérent. Hein, j'ai pris les 4 dernières années. Et on voit que de 247, 280, 272, 162, on se tient. Je ne suis pas certain que pour le budget 2021, on ait des chiffres aussi bons. Mais ça, on va attendre de le terminer. Alors, on va faire une petite analyse des charges des recettes fonctionnelles. Alors, si quelqu'un veut intervenir, vous poser une question, vous m'arrêtez. Hein?
Après, je ne sais pas, parce que c'est compliqué.
Peut-être après.
On va couper le débat. Moi, je ferai une intervention.
Tu feras une intervention à la fin. Hein? Ok, ça marche. Bon, donc on va attaquer donc les charges de fonctionnement. Alors simplement là, je vous mets un petit rappel, comme ça, ça vous permet de mieux situer les choses. Les charges à caractère général, ça permet de financer le fonctionnement des services, c'est-à-dire les flux, les achats, l'assurance, l'entretien, le patrimoine. On verra le détail tout à l'heure. Bon, les charges de personnel, évidemment, c'est toutes les charges relatives au personnel de la commune. Les autres charges de gestion courante, vous avez les indemnités d'élus et les subventions aux associations. Charges financières, c'est les charges financières. Charges exceptionnelles, c'est quand il y a des charges exceptionnelles, dotations aux amortissements, c'est les dépréciations d'actifs. On en a pas, hein, cette année. Donc ici, vous avez le total des charges de fonctionnement par chapitre. Donc on voit que les charges à caractère général représentent 21%, les charges de personnel 47%, les atténuations de produits qui sont les attributions de compensation versées à la métropole 20%, les opérations d'os et les amortissements et cessions d'immobilisation 4%, les autres charges de gestion courante, de gestion, vous avez vu, pour les débuts de subventions, ça représente 6%, frais financiers, ça représente 0,20%, et on avait fait une provision pour risque, 4 500 €, ça c'est la première année qu'on le fait, pour un risque sur des loyers impayés, 4 500 €. Ici, vous avez un petit graphique qui vous permet quand même de voir qu'effectivement, ce qui impacte le plus les charges de fonctionnement, c'est la masse salariale, les attributions de compensation et les charges générales, et que les autres postes sont moindres. Ici, vous avez un petit graphique sur l'évolution des charges de fonctionnement. Donc, vous avez 2017, 2018, 2019, 2020. Vous avez les charges à caractère général. Vous voyez qu'elles ont baissé cette année. Hein. Les salaires qui ont très peu augmenté, c'est pas vraiment stable cette année. Les atténuations, les tapis de produits, que ce soit les AC, c'est un montant fixe, donc ça ne bouge pas. C'est un peu difficile à voir. Hein. Les opérations d'ordre, c'est les amortissements. Eh bien, on voit qu'effectivement, chaque année, ben, ça progresse parce que c'est, les investissements sont nouveaux, il faut les amortir. Et les charges financières, ça représente quasiment rien. Sur les charges à caractère général, donc, on a eu cette année 676 636 contre 738 000 euros l'année dernière. Donc, c'est en diminution de 62 000 euros. Alors, bien évidemment, pourquoi est-ce que ces charges ont diminué? C'est tout simplement dû à la crise sanitaire où il y a eu des charges qui ne se sont pas reportées. On a des postes qui ont baissé, vous le verrez, on va le voir là tout à l'heure. C'est la cantine essentiellement, les fêtes et cérémonies très très sensiblement, et puis les charges du service enfant-jeunesse. Voilà, ici vous avez un tableau comparatif entre 2020 et 2019, donc ça vous permet de voir un petit peu les postes qui ont augmenté et qui ont baissé. Alors, vous voyez par exemple, on a eu davantage d'électricité. Alors, il faut dire aussi une chose, c'est que antérieurement, il n'y avait pas de charges. Il y a des années où on bénéficiait de la journée supplémentaire, c'est-à-dire que début janvier, on avait la possibilité de payer les dernières factures qui étaient arrivées et de les rapprocher au budget, au compte administratif de l'année qui se terminait. Et en 2019, le percepteur ne l'a pas voulu, il nous l'a refusé, hein, c'est la situation nouvelle, elle n'a pas voulu. Et par contre, en 2020, on a provisionné une grosse partie dans la mesure où effectivement le budget nous permettait, parce qu'il faut pouvoir que ça soit inscrit au chapitre, on a provisionné les factures. Donc ce qui fait que ça explique aussi, par exemple, qu'en électricité, eh bien, c'est surtout un report de l'année 2019 qui a fait augmenter sensiblement l'électricité. Bon, vous voyez que l'alimentation, il y a moins, mais c'est la cantine. Hein. Les fournitures d'entretien, on a eu beaucoup plus. Et dedans, il y a des charges qui sont liées au service à la crise sanitaire. Les fournitures petit équipement, on a eu moins, enfin, je vous laisse le lire. Alors, vous avez un poste, contrat de prestation de service, vous voyez qu'il y a une grosse diminution. En fait, c'est parce que dedans, on avait la classe de neige qui passe dans un autre poste sur le deuxième tableau. Après, le reste, il n'y a pas de choses significatives. Sur le deuxième tableau, on voit que dans les autres frais divers, on a 25 000 euros de moins. Ça, c'est le service enfant jeunesse, en sachant quand même, toutefois, que le percepteur nous oblige, pour certaines charges, par exemple quand il y a des achats d'alimentation, à créer un sous-compte d'alimentation. Donc, alors qu'avant, on mettait tout dans ce compte-là. Donc, ça n'explique pas complètement la diminution. Hein. Qu'est-ce qu'il y a après? Voilà, vous avez après fêtes et cérémonies, vous voyez, il y a 48 000 euros de moins, annonce et insertion 2 000 euros de moins, catalogue et imprimé 5 700 euros de moins, ça c'est effectivement, hein, il y en a eu beaucoup moins. Dans les divers, les 7 300 euros de plus, c'est des achats de masques. Hein. Et en bas, vous avez autre service extérieur, vous voyez qu'il y a une forte augmentation. C'est là où on doit mettre en mettre la classe de neige.
Les honoraires, c'est quoi?
Les honoraires d'avocat, quand on fait passer. Dedans, c'est surtout essentiellement des honoraires d'avocat. Il faut savoir que, on a des liquidités. Or, souvent, ils sont remboursés, hein. Parce que l'assurance qu'on a avec Groupama prend en charge des contentieux d'urbanisme. Donc souvent, on fait l'avance, vous allez les trouver là, et après on aura un remboursement dans un compte de produits divers. Alors je vous ai fait une petite plaquette sur le personnel, parce qu'on doit l'indiquer. Alors le personnel qui est employé par la mairie comme 36 agents, ils sont tous titulaires, il y a 32 agents à temps complet et 4 agents à temps partiel. Donc évidemment, en premier, il y a le chef de GS qui est là. Il y a 4 agents au service administratif, ce sont les secrétaires. Les 7 agents au service technique, c'est ceux qui travaillent toute la journée, hein, dans les camions, etc. Hein. Donc il y en a un qui est en congé longue maladie, donc en fait il n'y en a que 6. Bon, les deux policiers municipaux que vous connaissez. Il y a 2 agents de bibliothèque, un agent à la bibliothèque Espace Missionnaire Nickel et un agent de bibliothèque à l'école. 3 agents au service enfant-jeunesse. Et 19 agents techniques qui s'occupent de la cantine, des écoles et du ménage. Les charges de personnel sont restées stables cette année, hein, puisque en fait, on a même un petit peu moins, 7 588 € de plus. Par contre, pour le 2021, il faudra tenir compte effectivement du salaire du nouveau DGS qui sera là pour toute l'année, alors que vous étiez rentré au mois de septembre, hein, c'est ça. Et puis, je crois qu'il y a une ou deux personnes qui pourront se ramener à augmenter un peu les points, donc il faudra qu'on en tienne compte, mais ça, j'ai demandé à Claudine de me faire une prospective, hein, parce que moi je sais à peu près, mais je voulais qu'elle me fasse quelque chose de plus précis, puisque c'est elle qui fait les salaires et elle a tous les éléments. Donc ça, on le verra au niveau du budget. Sur les charges de personnel, bon, ben voilà, vous avez les comptes, hein, vous voyez que, en fait, sur la rémunération globale, votre personnel extérieur, là, on a 3 800 €, ça c'est le personnel des garderies, hein. Donc il y a les enseignants et puis aussi les ACMS, je crois. Hein. Et après, sur la base de rémunération, vous voyez, c'est 2 000 € de moins. Sur les charges de fonctionnement, pour les AC, bon, vous savez, hein, 634 861, ça ne bouge pas, c'est chaque année la même chose pour l'instant. Les opérations d'ordre, 138 000 €, contre 91 000 € l'année dernière, on a 124 655 € d'amortissement et 14 092 € pour une cession d'immobilisation. Dans les 124 000, il y a 40 000 € qu'on nous a demandé d'amortir. C'est la subvention, c'est le fonds de concours qu'on verse à la métropole pour pouvoir augmenter la somme qu'on peut utiliser pour rénover la voirie. Hein, vous connaissez le principe, hein, vous savez que tout ce que fait la métropole en voirie, qui n'est pas entretien, nous est décompté au centime, hein, chaque fois qu'on demande quelque chose. Et donc on a un budget pour ça. Ce budget, il n'est pas très très important. Et on a la possibilité de faire deux choses, c'est des ACI et des fonds de concours. Donc les ACI, c'est une somme qu'on verse, on peut verser 37 506 € dans l'année, et la métropole met 30 000 €. Donc ça, il nous subventionne. Donc c'est dommage de le perdre. Et après, par contre, dans les fonds de concours, on peut mettre 40% de plus d'un projet pour venir alimenter. Hein. Ce qui nous permet, évidemment, quand on a une rue à faire, etc., de pouvoir la faire. Parce que sinon, avec les 80 000 € qu'on a dans les AC, ça serait impossible. Hein. On ne pouvait pas faire grand-chose. Hein. Dans les charges de fonctionnement, on a les autres charges de gestion courante. Elles s'élèvent à 202 000 contre 185 000. Donc on a 17 000 € de plus. Vous verrez que ça, en fait, c'est l'augmentation des indemnités d'élus. On les a là. Donc vous les avez là. Vous voyez, donc les indemnités d'élus sont passées de 66 000 à 80 000. Et après, le reste est resté à peu près constant. Bon, les subventions aux associations ont manqué un petit peu, puisqu'on avait donné une petite subvention pour le Liban, une subvention aussi pour la chapelle de Bayardé. Alors ça, c'est quelque chose de nouveau qui vient de sortir. C'est que chaque année, les communes établissent un état présentant l'ensemble des annuités de toute nature, libellées en euros, dont bénéficient les élus. C'est sur un conseil municipal. Donc c'est une obligation de le présenter. Donc, je vous ai fait un tableau et vous avez tout là. Il y a une erreur ?
De voix 7, c'est 2 S.
Ah.
C'est pas de voix Z.
Moi, j'aime bien de voix Z, c'est joli. Je rectifie les R. Voilà. Donc, éventuellement, on pourra vous communiquer un peu si vous le souhaitez. OK, je continue. Dans les charges de fonctionnement, les charges financières, alors elles sont un petit peu plus importantes que l'année dernière. Pour la bonne raison, c'est que cette année, on a dû provisionner les intérêts courus non déchus. Les intérêts courus non déchus, c'est tout simplement une échéance qui prend son origine dans une année et qui est payée début de l'année de l'autre. Donc les intérêts qui sont intercalaires, par exemple, du mois d'octobre au 31 décembre, on les provisionne, si par exemple c'est sur 3 mois. Hein, voilà. Alors évidemment, l'année prochaine, ça sera l'inverse. Et d'ailleurs, on va déduire 1 211 euros et on va provisionner. Alors je ne sais plus, ça fait 900 et quelques euros. Donc ça, l'année prochaine, par contre, ça fera un petit peu moins que les échéances payées dans l'année. Voilà pour les charges. Je vais passer aux recettes de fonctionnement. Alors, je vous ai mis là aussi, pour que vous voyez un petit peu. Donc les atténuations de charges, donc, c'est les remboursements de charges de personnel. Produits et services et les recettes domaniales, c'est tout ce qui concerne les recettes, cantines, etc. Les impôts et taxes, ben, c'est la fiscalité directe, hein, taxes d'habitation, foncier bâti, non bâti, plus diverses, la DSR, etc. Les dotations et participations, c'est les DGF et les autres subventions. Les autres produits de gestion courante, c'est les redevances, il y a essentiellement les immeubles. Et après, les autres, pratiquement, il n'y a rien. Hein. Mais, je vous ai indiqué parce que ces comptes existent. Dans les recettes de fonctionnement, alors, dans les recettes de fonctionnement, elles se sont élevées à 3 433 000 contre 3 445 000, donc on a eu 11 000 euros de moins. Ces 11 000 euros de moins, ils sont se justifient ainsi. On a eu beaucoup moins de personnel absent en maladie, donc on a eu 20 000 euros de moins que l'année précédente. Les opérations d'ordre, ben c'est des transferts, hein, en définitive, donc 34 505, en fait ça, je ne sais pas très bien ce que c'est, mais en fait ça atténue, je crois que dedans, oui, il y a la cession d'immobilisation, essentiellement des amortissements que vous avez demandé de faire la compta publique, voilà, je fatigue, et qui s'est neutralisé en recettes et en dépenses. Hein. Les produits et services, on a eu 84 000 euros de moins, mais évidemment, ça c'est tout simplement la quantité des services enfants jeunesse. Par contre, en impôts et taxes, on a eu davantage, mais tout ça on va le voir en détail, hein, ainsi que les dotations et participations et les autres produits. Voilà comment ça s'explique. Alors les atténuations de charges, on a eu 19 523 euros. Les opérations d'ordre, ça représente 1%. Produits et services, 5,66. En fait, on voit que les grosses recettes, là, ce qui fait dans notre recette, c'est les dotations et les impôts, qui représentent 90%. Hein. Et d'ailleurs, on voit bien dans le graphe qui suit, où on voit bien que tout ce qui est en jaune, c'est les impôts et taxes. Ensuite, on a les produits et services, opérations d'ordre, les dotations et participations, c'est quand même... C'est un problème, parce que nous, en fait, si vous voulez, notre ressource essentielle, c'est les impôts. Donc ça veut dire qu'il faut vivre avec ça. Et ce qui est ennuyeux, c'est que les dotations et participations, elles ont tendance à diminuer dans le temps, et donc petit à petit, on resserre, surtout la DGF qui a beaucoup, beaucoup baissé en quelques années, et donc effectivement, il faut qu'on retrouve ces recettes ailleurs. Là, vous avez l'évolution de la structure d'évolution des recettes, et vous voyez bien que la seule chose qui est vraiment augmentée, c'est les impôts. Voilà. Les produits et services, eh bien, voilà, vous avez les concessions dans les cimetières, 14 000 euros. Les autres recettes diverses, c'est les services enfants jeunesse, 42 000 euros. La redevance et services à caractère culturel, c'est la bibliothèque. Alors, il y a eu une grosse différence, parce que l'année dernière, si vous vous souvenez bien, la bibliothèque avait vendu un livre. Hein, et donc ça avait fait des recettes supplémentaires, et on avait eu effectivement ça avait couvert l'édition, hein, en définitive, hein. Et les redevances périscolaires, là on a 32 000 euros, c'est la cantine et la garderie. Les impôts et taxes, donc en fait on voit que sur la taxe d'habitation et la taxe foncière, on a eu 38 000 euros de plus, mais ça s'explique par l'augmentation qui était d'un peu moins de 1% ou de 1% des bases depuis les nouvelles constructions. Cette année, on a touché une dotation de solidarité communautaire, 4 944 euros. En fait, c'était la métropole qui avait distribué 1 million d'euros à l'ensemble des 38 communes, et nous, gracieusement, ils nous ont donné 5 000 euros. Le fonds de péréquation de taxes communales, il a légèrement augmenté. La taxe sur l'électricité est légèrement aussi. La taxe au pair des bus extérieurs, c'est non significatif. Et la taxe additionnelle sur les droits de mutation, c'est ce qu'on perçoit sur les transactions immobilières. Et cette année, on a eu 8 000 euros de plus à 119 000 euros. C'est ce qui explique qu'on ait eu 58 000 euros de plus. Par contre, sur les dotations et participations, là, par contre, on a eu à peu près la même chose que l'année précédente, mais on a perdu 11 000 euros sur la DGF et on va continuer à en perdre. Les autres, 1 873, c'est le remboursement des masques et des salaires, ce qu'on a vu tout à l'heure. Les autres organismes, c'est la CAF. Donc, on a perçu 2 800 euros de plus. Et on a eu des compensations sur les exonérations. Bon, la taxe foncière, c'est à peu près similaire. Par contre, sur la taxe d'habitation, on a quand même touché 52 000 euros pour les exonérations qui sont apportées par l'État. Et évidemment, là, il n'y avait pas de dotation au recensement, puisque là, on ne fait pas un recensement chaque année. Hein. Il y en avait eu en 2019, il y en a même eu en 2020. Alors, sur les impôts, alors, on va parler rapidement de la taxe d'habitation. Donc, son taux était fixé à 11,95%. Il a rapporté 1 228 684, dont les 52 000 qui sont pris en charge par l'État. Le taux de la taxe d'habitation est gelé, on ne peut plus l'augmenter. Hein, c'est fini de toute façon. Vous savez que bon, il y a déjà 80% des gens qui en sont exonérés et les 20% seront exonérés dans les deux années à venir. En 2021, ce montant sera compensé par l'État à l'euro près, plus le montant que nous devrions évidemment percevoir sur les nouvelles habitations. La taxe foncière, bien son taux, il est à 1,67% pour le foncier bâti et 79,73% pour le foncier non bâti. Et c'est le produit de taxe a été de 1,346,444 et 1,346,444 pour le foncier bâti et 50 000 pour le non bâti. Alors, je voulais vous parler un petit peu de la taxe sur l'électricité. Alors, cette fameuse taxe dont je parle déjà depuis plusieurs années, parce que la métropole nous avait laissé le choix, soit elle le récupérait, soit elle nous le laissait. Nous, on avait pris la position de la garder, et elle avait été votée à l'époque à 4%. À partir de l'année prochaine, 2021, c'est fini, c'est l'État qui récupère cette taxe et qui nous la reversera. Au passage, on va gagner un petit quelque chose, c'est-à-dire les frais de gestion qui étaient perçus par les organismes collecteurs. Ça nous sera versé. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que l'État, dans les 3 années à venir, va porter son taux au maximum, c'est-à-dire 8,5%. Moi, je vais vous proposer, d'ici, avant le 1er juillet, de passer directement à 8,5% pour pouvoir, à partir de 2021, pouvoir percevoir cette taxe à ce taux-là, puisque de toute façon, c'est inéluctable, dans les 3 années à venir, elle va être à ce montant. Donc, ça va nous permettre, si vous voulez, d'avoir quelques recettes supplémentaires, parce que ça représente quand même 60 000 euros. Bon, c'est vrai que c'est nous qui allons les payer, hein, sur nos factures, mais il faut quand même qu'on trouve des recettes. Hein. Donc, on pouvait dire, bon, ben, on peut attendre, ça va. C'est ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Hein. Chaque année, on disait, bon, ben, pour l'instant, on ne parle pas de ça part de la métropole, etc. Maintenant, on sait que de toute façon, ça va passer. D'ailleurs, je vous ai mis ce petit tableau qui nous a été envoyé par les impôts. Et donc, vous voyez que dès 2022, de toute façon, de 4, ça va passer à 6. Et ensuite, entre 2023 et 2024, ça atteindra 8,5%. Donc, moi, je vous le proposerai. Après, vous déciderez. Hein. Les dotations et la DGF. Alors, le montant de la DGF, qui est la dotation globale de fonctionnement, a considérablement diminué depuis 2014. Il faut savoir qu'elle était de 370 000 et que la prévision pour 2021, bon, qu'on connaît, ça sera environ 67 500 euros. Donc vous voyez que pratiquement, et d'ailleurs il y a déjà des communes qui n'en perçoivent plus, hein, chez qui elle a disparu, parce que c'est la DGF, elle est répartie entre les communes au titre de la solidarité entre les communes. Et donc les communes qui sont censées être riches, eh bien, elles s'en voient dépourvues pour les donner à des communes qui sont dites pauvres. Voilà, c'est bien ça, Jean-Marie.
Oui, pas tout à fait. C'est-à-dire que c'est l'État.
Oui, il y a d'autres critères. Je sais
que l'État a changé les règles en cours de route. C'est-à-dire que la DGF, historiquement, avait été attribuée pour les transferts de compétences qui étaient de l'État vers les communes, notamment au niveau des écoles. Et avec le temps, on a oublié qu'elle représentait cette quote-part aux investissements communaux. Et aujourd'hui, effectivement, c'est devenu une taxe de péréquation entre communes riches et communes pauvres. Ce qui veut dire que pour Montferrier, il faut s'attendre à ce qu'elle soit nulle dans quelques années.
Oui, mais.
14 000 euros la
touche pas du Martinet. 5 témoins, oui, mais c'est quand même, ils ne sont pas dans la métropole. Mais ce que j'avais, c'était la métropole. Je ne me rappelle plus si c'était Perron ou Saint-Jean-Pédas, c'est Perron, hein, qui avait perdu presque. Dans les autres dotations, on a la DSR, qui est la dotation de solidarité d'État. Bon, pour l'instant, elle reste simple, autour de 40 000 euros. On va savoir d'ici le 31 mars ce qu'on va percevoir pour le prochain budget. Le FCTVA, on touche maintenant un FCTVA en fonctionnement. Donc c'est le reversement d'une partie de la TVA qui concerne en principe les investissements, mais maintenant on les récupère sur certaines charges qui sont l'entretien des bâtiments publics, la voirie et des réseaux. On a eu 6582 euros en 2020. Et dans les autres dotations, je vous l'ai dit tout à l'heure, on avait touché 8 812 pour l'aide à la crise sanitaire à Chalmas, accompagnement scolaire et frais liés. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait aussi les frais liés aux élections dedans. Alors ensuite, on va passer à la section d'investissement. Donc la section d'investissement, cette année, eh bien, elle ressort des bénéficiaires. Bon, c'est un peu logique, hein, parce qu'en définitive, on n'a pas fait grand-chose. Hein. Alors, évidemment, ces chiffres, je vais vous les expliquer parce qu'ils sont importants, mais en fait, dedans, il y a beaucoup de choses. Donc, on a un résultat de la section qui est de 244 799 euros. Donc, on va voir les recettes. Donc, dans les recettes, vous avez les dotations, les subventions et les emprunts. Bon, dans les dotations et fonds divers, essentiellement, il y a la taxe d'aménagement, le FCTVA et l'excédent de fonctionnement. Dans les subventions, il y a les subventions reçues par les collectivités de la part de l'État ou d'autres collectivités. Dans les emprunts, c'est si on fait des emprunts. Dans les opérations d'ordre, donc ça c'est le virement de tout l'ensemble des amortissements, de la cession de etc. pour 138 000. L'opération patrimoniale, c'était une demande, on l'avait votée dans un conseil municipal, je ne sais pas si vous en rappelez, c'était pour régulariser des écritures qui étaient très anciennes, mais ça n'avait pas de conséquences pour nous parce qu'on les avait en recettes et en dépenses. Les dotations et fonds divers, 1 109 000, dedans on a surtout les déficits et les restes à réaliser, je vais vous montrer. Et les subventions d'investissement, on a touché 70 000 euros, c'était le reste de l'école maternelle, et puis je ne sais plus, il y avait autre chose dedans, c'était des investissements qui avaient été faits dans les années précédentes. Alors dedans, les opérations d'ordre, voilà, c'est le virement hein, avec les amortissements et la véhicule qui avait été cédé. Dans les dotations et fonds divers, on a 102 000 du FCTVA, investissement, ouais. 137 000 pour la part de la taxe d'aménagement qu'on récupère, c'est la métropole qui encaisse, donc nous en reverse 80%. On a effectivement la compensation du déficit d'investissement pour 752 000 et la reprise est restée réalisée pour 317 940. Alors pourquoi la reprise est restée réalisée? Tout simplement parce que ces restes réalisés, ils ont été déduits, ainsi que le déficit d'investissement, de l'excédent de fonctionnement. Donc c'est normal qu'on le reprenne en recette, puisque en contrepartie, il y a les paiements qui interviennent en dépenses. C'est un peu compliqué, mais c'est une gymnastique comptable. Hein. Alors le FCTVA, alors là aussi le FCTVA, il va y avoir une nouvelle procédure. Puisque jusqu'à maintenant, c'était la commune qui faisait la déclaration à la préfecture. La préfecture vérifiait et en général il nous enlevait toujours quelque chose et il nous le reversait. Maintenant c'est fini, c'est directement la comptable publique qui va s'en occuper et donc c'est la trésorerie qui va renseigner la préfecture. Mais par contre il faudra qu'on soit extrêmement prudent dans la ventilation parce que tout ne donne pas droit à remboursement. En particulier par exemple si on fait des investissements sur des locaux qu'on loue, par exemple, eh bien, on ne peut pas récupérer la TVA. Donc il faudra que que Claudine fasse très très attention, de façon à ce qu'on sera en cas de contrôle, on ne dise pas qu'on a fait des fausses déclarations. Et il y a une deuxième chose qui doit intervenir, c'est que le décalage de Nantes va disparaître, c'est-à-dire qu'on touchera directement, non plus avec 2 ans de retard, mais avec l'année précédente. Donc je ne sais pas si ça sera pas en 2021, je pense que ça sera plutôt à partir de 2022. Alors peut-être qu'on ne touche pas 2 années, hein, une, hein, ça, ce qui paraît très logique. Voilà. Alors maintenant, les dépenses d'investissement, donc dedans, on va trouver les dotations et fonds divers, le remboursement de taxes d'aménagement, pour ça, on n'en a pas, on en a eu il y a 2 ans, je crois, mais là, pas cette année. On a un remboursement du capital des emprunts, on a les immobilisations corporelles, c'est souvent des achats de licence, les subventions d'équipement versées, on trouve dedans ce qu'on verse à la métropole. Ensuite, on a les immobilisations corporelles, les immobilisations en cours, et les participations et autres mobilisations financières. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans les dépenses? Ben, on a le report, ben oui, parce qu'on compense le déficit en recettes et en dépenses, donc 552 000, on l'a vu tout à l'heure. Opération d'ordre, c'est des transferts aussi, des transferts des amortissements. Les opérations patrimoniales, ça annule. Ben, c'est des écritures, en fait, qui annulent tout simplement, parce qu'on le passe en dépenses, on le retrouve en recettes. Mais ça augmente le montant total, mais ça ne joue pas sur la trésorerie de la commune. Ensuite, on a le remboursement des emprunts, 30 000, les subventions versées à la métropole, 37 506, les immobilisations corporelles, on a payé 307 000, les immobilisations courtes, 92 000. On va voir de quoi il s'agit. Bon, le report, ça je vous l'ai dit, les opérations d'ordre, mais voilà, c'est ça, c'est la neutralisation des ACI, plus la cession d'immobilisation. Alors, si vous voulez, c'était en 2019, on avait versé à la métropole 40 000 euros d'ACI. C'est ce qu'on appelle cette somme qu'on verse pour augmenter la possibilité de faire des travaux. Et la compta publique nous a demandé de l'amortir. Alors, c'est des opérations de la traîne parce qu'on le trouve d'un côté et de l'autre en recettes et en dépenses. Donc, on a 40 000 et les 13 000, c'est la cession d'immobilisation. Le capital des emprunts. La subvention versée à la métropole, ça c'est ce qui a été vraiment versé cette année. Et ensuite, dans les dépenses d'immobilisation, les 307 000, ça réclait essentiellement des restes à réaliser sur l'école maternelle pour 160 000 euros, des travaux sur des bâtiments publics pour 5 815 euros, des travaux à la mairie pour 32 000 euros, des travaux sur les terrains de foot pour 16 914 euros, l'installation de climatisation dans plusieurs bâtiments pour 20 000 euros, des achats de matériel pour 12 000 euros, des achats de matériel informatique, matériel bureau pour 12 000 euros, du mobilier pour 12 000 euros et l'acquisition d'un véhicule pour 28 692 euros. Et dans les immobilisations en cours, 92 000, ça concerne les travaux d'étanchéité qui ont été faits sur les toitures de l'école élémentaire. Donc, comment est-ce qu'on va affecter ce résultat? Ça, on va le voter tout à l'heure. Hein. Mais le résultat, c'est très très simple. Hein. On a un excédent de fonctionnement, un excédent d'investissement. Eh bien, on va affecter en fonctionnement le montant de l'excédent de fonctionnement, il y a l'investissement, le montant de l'excédent d'investissement. C'est très simple, ça ne pose pas de problème. Alors, de 2020 à 2021. Alors, qu'est-ce qu'on a pour le budget de l'année 2001? Alors, moi, j'ai commencé... Pardon? 2021, oui. J'ai commencé... Pardon.
Peut-être que je peux intervenir maintenant sur la partie du... 2020.
Tu veux un micro, peut-être?
Oui, bien. On va changer de voix et ça va retrouver les gens.
Vous m'entendez?
Oui,
très bien. Donc, oui, j'interviens, c'est un peu parce que on va couper la distinction entre le budget 21 et le budget 2020. Donc je vais reprendre un certain nombre de points effectivement sur le budget 2020 et on est en concordance avec les remarques qui ont été faites par Bernard. J'avais juste un petit regret, c'était sur la forme du document écrit qui est joint au conseil municipal, qui est une forme maintenant qui est ancienne, du DOB qui est inscrit dans la... et qui est disponible, la forme écrite.
Ah oui, on débat d'orientation budgétaire. Je l'ai dit, il y aurait que j'allais le... Voilà. C'était M. Lartigue qui avait fait ça à l'époque.
Ouais, c'est dommage.
Je vais te dire, hein, j'ai juste changé les chiffres. L'année prochaine, on va le refondre.
Parce que la forme date de 2010.
Tu as raison.
Et je pense que cette année aurait mérité, effectivement, au moins dans le document écrit, d'un peu plus de précision pour expliquer effectivement ce que tu nous as dit à l'oral. Mais bon, ça aurait été intéressant puisque c'est le document que les citoyens, les PowerPoint, les gens n'y ont pas accès, sauf si vous le mettez en libre disposition sur le site de la mairie. Donc il y avait ça, et puis il y avait un autre point qui a été omis, c'est aussi un petit regret, c'est qu'il y avait un point sur la réforme fiscale qui va arriver en 2021 et qui va changer quand même assez largement les règles. Et je pense qu'on aurait mis un peu de temps dessus, ça aurait permis sans doute d'expliciter, au moins pour les personnes du conseil, pour les citoyens qui ont accès au compte-rendu du conseil municipal, un certain nombre de points. Donc voilà, c'est mon vrai. Ce que je te propose peut-être pour l'année prochaine, c'est qu'on puisse travailler ça en commission finance.
Oui, bien sûr, hein, avec plaisir, pas de problème.
Donc, sinon, sur la situation de l'année 2020, effectivement, elle est originale à double titre. Hein, c'est à la fois une année de transition électorale, en plus qui a été prolongée, puisqu'on avait 6 mois de l'ancien mandat et puis 6 mois de nouveau. Puis en même temps, il y a eu le problème de la crise sanitaire. Donc ça a impacté sur un certain nombre d'éléments qui se traduisent au niveau du budget de façon assez précise. Donc on fait grosso modo les mêmes remarques que tu fais avec quelques bémols sur leurs interprétations. Donc effectivement, on a des charges générales qui sont en réduction de près de 62 000 euros. Mais nous, on rattache cette réduction essentiellement à la crise sanitaire, hein, puisque effectivement, on trouve 10 000 euros de dépenses supplémentaires directement liées à la crise sanitaire qui sont explicitées et que tu nous as explicitées, je pense, en dépenses. A l'inverse, on a la baisse du poste alimentation que tu as souligné aussi, donc de 20 000 euros, et la réduction de la ligne fête et cérémonie de 50 000 euros. Donc paradoxalement, la crise sanitaire n'a pas eu de conséquence d'une augmentation du budget de la commune, mais au contraire, on a fait des économies avec la crise sanitaire. Donc ce qu'il faut le savoir, c'est absolument pas volontaire, mais il faut aussi faire une présentation objective. Parce que quand on voit le tableau que nous montre entre les dépenses réellement faites et ce que l'État nous a remboursé, on pourrait penser qu'il y a un solde largement négatif de 10 000 euros. En fin de compte, dans les faits, sur le global du budget, on est en solde positif, impactant par la crise sanitaire. Non volontaire, mais c'est important à ce moment. En ce qui concerne les charges personnelles, comme tu l'as dit, on a des charges personnelles qui sont stables. Mais quand on analyse de façon un peu plus précise les chiffres, en fin de compte, cette stabilité, elle est le résultat de deux choses. D'une diminution des rémunérations des personnels non permanents, des personnels extérieurs, entre guillemets, et une augmentation du poste des personnels titulaires. 50 000 euros et moins 50 000 euros. Alors les rémunérations des personnels extérieurs, une partie est due aussi à la crise sanitaire, puisque notamment en ce qui concerne les études à l'école, une partie a été réduite, donc ça fait moins de 10 000 euros. Enfin, regardez, mais c'est quand même des petites sommes qui contribuent au moins 50 000 euros. Par contre, l'augmentation des personnels statutaires, qui augmente de plus 4,3%, on est dans la continuité là de ce qui se passe depuis plusieurs années. Je rappelle juste que l'augmentation des personnels statutaires, ça a été de plus 10% entre 2018 et 2019. Plus 12% entre 2019 et 2020. Ça traduit deux choses qui sont importantes et qu'il faut que l'on sache. C'est qu'un, il y a eu de la titularisation du personnel. C'est une bonne chose pour eux, mais en contrario pour les dépenses de la commune, ça a un impact. Et on a aussi le fameux vieillissement vieillesse technicité qu'on aborde depuis plusieurs années, qui est dû au fait que, ayant un vieillissement de la population, enfin des personnels, on a une dérive due à l'ancienneté. Voilà, donc comme on l'avait souligné les années précédentes, je pense que ça sera sur le budget 21 sans doute un élément à suivre, peut-être plus précisément, comme tu l'as dit, sur ces aspects de rémunération des personnels. Ça représente plus de mémoire 50% des dépenses non compressibles.
47%,
voilà. 47% des dépenses de la commune, donc c'est quand même un poste important et qu'il faut. Après, sur les charges de gestion courante, eh ben, comme tu l'as souligné, la seule cause de l'augmentation de ce poste, c'est l'augmentation des indemnités des élus. Cette augmentation, ça représentera 40 000 euros en année pleine. Alors, je voulais juste rappeler à cette occasion qu'en juillet dernier, quand le vote a été posé de cette question, nous avions voté contre cette augmentation, non sur le principe, mais sur le fait qu'on n'avait pas détaché une recette qui permettait de couvrir cette dépense. Je pense que là aussi, dans le cas du budget 21, ça fera partie sans doute de l'analyse qu'on devra avoir, puisque c'est une augmentation de dépenses, donc il faut trouver des recettes qui soient associées. Le budget d'investissement, l'année toute particulière qu'il y a eu fait qu'il n'y a pas eu d'investissement, enfin de projet conduit, et c'est légitime et compréhensible. Donc les résultats de l'année, on a mis certes 200 000 euros de côté sur le budget d'investissement, mais ça ne représente pas du tout le fonctionnement d'une année normale. Et nous, on est demandeurs, mais tu nous as confirmé ça tout à l'heure en début de conseil, on est demandeurs d'une réflexion de fond sur la façon dont on projettera ces projets d'investissement sur la totalité du mandat.